Je ne sais pas par quoi commencer tellement le sujet est vaste. Et je pense en particulier sur le sujet des prophéties. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre Dieu a mis dans sa parole tout ce qui concerne les temps de la fin. C'était tellement important pour lui qu'il nous a même donné des détails. Je ne sais pas si vous aimez le sujet des prophéties. Les prophéties, ce n'est pas fait pour vous mettre mal à l'aise ou pour vous dépasser un petit peu, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi, l'Apocalypse, je ne vais pas lire ça, j'y comprends rien, etc. etc. » Mais je crois que le Seigneur a voulu, enfin, il a cru qu'on avait une intelligence qu'on pouvait mettre au service de la compréhension des Écritures. Vous pouvez déjà commencer à chercher le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, si vous voulez bien. On va introduire notre sujet avec quelques versets sur ce chapitre, chapitre 13 de l'Apocalypse. Déjà, vous allez voir qu'il y a quand même des passages assez difficiles. Alors, le livre qui est en vente au fond de la salle, là, sur la petite table, ce livre s'intitule « Comprendre l'Apocalypse ». On ne savait pas trop comment l'intituler, enfin c'était l'Apocalypse en tout cas. Il ne traite pas que du chapitre 1er, verset 1er jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, mais il y a toute une introduction pour comprendre déjà comment saisir les prophéties, parce qu'on n'étudie pas les prophéties de n'importe quelle manière. Par exemple, je vous donne une idée, les prophéties qui se sont déjà accomplies, parce qu'il y a des prophéties qui vont s'accomplir, certaines se sont déjà accomplies, telles que celles qui annonçaient la venue de Jésus, le Sauveur, etc. Elles se sont toutes accomplies à la lettre. À la lettre, c'était pas « Ah oui, mais c'est écrit comme ça, mais ça veut dire autre chose ». Non, ça s'est accompli exactement comme c'était écrit. Par exemple, Jésus devait naître à Bethléem. Où est-ce que Jésus est né ? Il est né à Bethléem, voyez-vous. Mais la suite, par exemple, qu'il règnera sur Jacob, etc., ça, c'est pas encore accompli. Et pourtant, c'est sur le même verset, la même ligne, voyez-vous. Donc, si une partie s'est accomplie à la lettre, le reste s'accomplira à la lettre. Déjà, vous avez un principe très, très important concernant l'étude des prophéties. Vous savez que, humainement parlant, ça explique un petit peu les théologiens libéraux, comme on les appelle. C'est-à-dire, pour moi, c'est des théologiens qui ne devraient pas être des théologiens. C'est des incrédules, tout simplement. Ils étudient les Écritures, mais ils n'y croient pas. Et pour eux, les prophéties sont impossibles. Et dans un certain sens, c'est vrai, parce que, humainement parlant, c'est impossible à un être humain de prévenir l'avenir. Il n'y a qu'une différence, c'est que là, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, lui, il sait très bien, n'est-ce pas, ce qui va se passer. Alors, il nous donne des détails sur tout ce qui va arriver. On a fait des... Vous savez que les mathématiciens aiment bien nous gorger de chiffres. Et il y a ce qu'on appelle le calcul des probabilités. Certains, peut-être, d'entre vous, vous êtes matheux. Moi, je ne le suis pas du tout. Ce que je vous dis là, c'est des trucs que j'ai lus. Mais par exemple, pour vous donner une idée de l'impossibilité qu'une prophétie s'accomplisse. Vous avez un détail dans une prophétie. Vous avez une possibilité qu'elle s'accomplisse et une possibilité que ça ne s'accomplisse pas. Un détail. Mais plus vous allez, n'est-ce pas, en ajoutant des détails, vous ajoutez des détails. Vous dites par exemple, dans 10 ans, tu vas rencontrer une femme qui a un chapeau noir. Vous voyez ? Déjà, vous avez donné plusieurs détails, parce que c'est dans 10 ans, c'est une femme et c'est un chapeau noir. Vous voyez ? Vous ajoutez des détails. Ajoutez qu'elle avait des chaussures, quelle couleur vous préférez ? Voyez ? Imaginez des choses comme ça. Plus vous ajoutez des détails, plus c'est possible dans 10 ans. Vous rendez compte tout ce qui peut arriver dans 10 ans. Or, la Bible a été écrite il y a des siècles. Et ces prophéties vont toutes s'accomplir à la lettre. Quand vous arrivez, selon ce calcul des probabilités, quand vous arrivez à 40 détails, Quand vous êtes à 40 détails d'une prophétie, et vous avez des centaines de détails de prophéties dans la Bible, quand vous arrivez à 40 détails, vous avez 1000 milliards, vous avez une chance que ça s'accomplira sur 1000 milliards que ça ne s'accomplira pas. Humainement, mathématiquement, ça veut dire que c'est impossible. Vous comprenez? Et pourtant, nous, nous sommes devant la parole de Dieu. Amen. On va lire ce texte, donc, Apocalypse 13. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis, et ça, retenez-le bien, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est le diable, hein, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Moi, je vais arrêter la lecture parce que autrement, il nous faudrait lire encore et encore davantage. Je remarque en passant ici et qu'il s'adresse aussi à ceux qui habitent dans le ciel. Et si j'en crois ce que j'ai pu méditer des Écritures, l'Église est déjà dans le ciel à ce moment-là. Et c'est pourquoi il insulte, si je puis dire, il blasphème non seulement contre Dieu, mais contre ceux qu'il a rachetés, ceux qu'il a purifiés, ceux qu'il a sauvés de la terre. Puis je vis monter de la mer une bête. C'est étonnant que Dieu ait voulu nous parler de l'avenir sous cette forme-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de dessins animés, on parle beaucoup d'illustrations, etc. Mais je remarque que Dieu, pour nous instruire, il a employé aussi des illustrations. Par exemple, une bête. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Une bête qui a 10 cornes, vous en avez vu, vous? J'en ai jamais vu. 2 cornes, ça va. Hein. 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, etc., etc. Soit dit en passant, la Bible, est-ce que vous aimez les prophéties? Ne répondez pas tous à la fois. Vous ne savez pas trop, hein? Vous vous dites, c'est peut-être un piège. Non, il n'y a pas de piège, hein? Il n'y a pas de piège. C'est pour vous dire simplement une chose. C'est qu'on a calculé, on a compté, une évaluation approximative, que la Bible est composée d'environ un tiers de prophéties. Vous savez ce que c'est un tiers, hein? Vous séparez la Bible en 3, vous avez donc 2 tiers qui ne sont pas prophétiques, et vous avez 1/3 de la Bible qui est prophétique. Prophétie accomplie, prophétie non accomplie, ou prophétie en cours d'accomplissement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous dites « j'aime la parole de Dieu », vous ne pouvez pas négliger le sujet des prophéties. Ça voudrait dire je néglige 1/3 de la Bible. Et ça, vous ne pouvez pas. Enfin, ce soir, je crois que j'ai affaire quand même à des jeunes, hein, qui veulent... Enfin, oui, vous êtes tous jeunes là, hein, surtout. Hein, bon, c'est bien. Le Seigneur a tenu à nous avertir des choses qui doivent arriver dans ce monde. Ce n'est pas nous qui lui avons dit, on n'était même pas là, moi je n'étais pas né, vous non plus, il y a quelques siècles. Eh bien, le Seigneur a tenu à nous avertir des choses qui doivent arriver à notre monde. En ce qui concerne la fin des temps, par exemple, il y a une expression que le Seigneur Jésus lui-même a employée et qui s'appelle « les temps des nations ». Les temps des nations, c'est les temps pendant lequel, n'est-ce pas, ce monde fait ce qu'il veut à sa guise, hein, les temps des païens, si vous préférez, un autre mot pour le mot nation. Dans Luc 21-24, des fois je cite le passage, puis je le lis rapidement pour ne pas perdre de temps, Parce que vous finissez à quelle heure d'habitude? Vers minuit, on m'a dit, non? Matthieu 21, 24, Jérusalem, écoutez cette prophétie de notre Seigneur, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Vous connaissez Jérusalem? Il y a quelques années, on n'en entendait pas tellement parler, et puis d'un seul coup, le feu s'y est mis, et puis maintenant, on en entend parler pratiquement tous les jours. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est une parole de Jésus. Et dans Apocalypse, chapitre 11, verset 2, ce texte nous parle aussi de Jérusalem. Et il est dit, « Le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, voyez le mot « nations », et elles fouleront aux pieds la ville sainte, et vous avez compris que la ville sainte, c'est Jérusalem, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi, ou comme ailleurs c'est écrit, 1260 jours. Je ne sais pas si ce que je vais dire, ça va vous donner envie d'étudier les prophéties, ou si au contraire, bon, j'espère que ça ne va pas vous bloquer. Hein. Je sollicite vraiment toute votre attention. Remarquons, concernant cette bête qui a 10 cornes et 7 têtes, vous avez pu donc remarquer que cette bête a 10 cornes et qu'il y a 10 diadèmes sur les cornes. Ça veut dire que chaque corne est couronnée. Et si vous lisez d'autres textes de la Bible, vous êtes obligé d'arriver à cette conclusion. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces cornes sont en train de régner, puisqu'elles sont couronnées. Dernièrement, nous avons vu en Espagne, le roi d'Espagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté la couronne, il ne règne plus, et il l'a donnée à son fils. C'est son fils qui est couronné maintenant, n'est-ce pas, comme roi d'Espagne. Je vous amène donc avec ce sujet-là à notre texte. Ailleurs, il arrive, par exemple, qu'on voit les 10 cornes, mais elles ne sont pas couronnées. Par exemple, au chapitre 12, verset 3, il est parlé du dragon qui, lui aussi, a 7 têtes et 10 cornes. Mais il nous est dit que ce ne sont pas les cornes qui sont couronnées, mais les têtes, les 7 têtes. Alors, vous pensez bien que je ne vais pas rentrer trop dans les détails ce soir pour ne pas s'embrouiller. Hein. Je vais vous laisser quand même respirer un petit peu. Je vous demanderai de remarquer la description de la bête. Elle était semblable à un léopard. Retenez-le bien, parce que là, je vais vous... Interrogation écrite à la fin. Hein. On va se croire à la fac. Là, hein. Il nous est dit qu'elle était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Voilà, je vous demande de retenir ça. Mais la bête elle-même, il nous est dit qu'elle était semblable à un léopard. Hein, je reviens sur notre texte. Il est écrit au verset 5, « Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Je précise que tout à l'heure, nous avons dit 3 ans et demi pour que ce soit peut-être plus clair pour nous, n'est-ce pas? Que signifient donc ces 10 cornes? Comment on étudie les prophéties? Je crois que, comme vous le savez sans doute, pour comprendre l'Apocalypse, il ne faut pas lire que l'Apocalypse. Et certaines personnes, bien sûr, lisent l'Apocalypse et disent « j'y comprends rien ». C'est peut-être pour ça qu'on a intitulé mon livre « Comprendre l'Apocalypse ». Mon gendre voulait qu'on l'intitule, parce que c'est lui qui a composé le livre, il voulait qu'on l'intitule « Comprendre enfin l'Apocalypse ». J'ai dit « Non, on ne va pas mettre ça parce que ça veut dire que tous les autres, ce qu'ils ont écrit, ce n'était pas bon. » Alors on a enlevé « Enfin, comprendre l'Apocalypse ». Vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse en lisant uniquement ce livre. Il faut y associer impérativement, en particulier, il y a d'autres livres, mais en particulier, il faut y associer le livre de Daniel. Allons voir Daniel chapitre 2 par exemple. Allez, vous voyez, je vous fais voyager ce soir. Daniel chapitre 2. Alors là, Je ne sais pas si je vous fais grâce de toute la lecture ou si... Verset 31, normalement, chapitre 2, verset 31, « Au roi, tu regardais... » Vous vous rappelez de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé, songé, une statue horrible, terrible. Daniel lui-même dira qu'elle était d'une splendeur extraordinaire et son aspect était terrible. C'est vous dire donc que la statue avait frappé même Daniel quand Dieu lui a révélé la statue du roi. Souvent on parle du colosse au pied d'argile, vous vous rappelez? Vous connaissez cette expression, le colosse au pied d'argile, mais c'est tiré de la Bible. Hein? Donc là il nous est dit, Daniel va expliquer au roi Nebuchadnezzar, à l'école vous avez entendu parler de Nabucodonosor, eh bien c'est lui, hein, c'est Nebuchadnezzar, c'est traduit différemment. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi, son aspect terrible, etc. etc. Bon, on va au verset 36. Voici le songe, nous en donnerons l'explication. Donc il va donner l'explication devant le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a dominé sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Vous vous souvenez que la première partie était en or, hein? La tête était en or. C'est toi la tête d'or, nous est-il dit dans ce texte, après toi. Ça c'est de la prophétie. Parce que là, quand il dit c'est toi la tête d'or, bon, c'est historique. Il l'a devant lui, c'est le roi Nebuchadnezzar, c'est Babylone, si vous préférez. Après toi, ça c'est de la prophétie, il s'élèvera un autre royaume. Comment pouvons-nous prévoir une chose pareille? Ça c'est Dieu qui le révèle. Un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, et je vous prie de retenir cette expression, dans le temps de ces rois, et on est dans les pieds, hein, les pieds en partie de fer, en partie d'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Là, nous sommes à la fin. Donc, vous voyez qu'en commençant avec Nebuchadnezzar, la tête d'or, nous arrivons au temps de la fin. Parce que ça, c'est la venue du Seigneur Jésus, c'est le royaume de Jésus. Hein. Il anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. Le roi avait vu une pierre se détacher de la montagne, venir frapper les pieds de la statue et tout a été pulvérisé et emporté par le vent. Eh bien, Daniel lui dit, eh bien ça c'est le royaume de Dieu qui va venir. Nous, bien sûr, nous disons dans la personne de Jésus, même si là, ce n'est pas écrit, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Donc, il plaît à Dieu de nous révéler ce qui va arriver dans la suite des temps, et puisque certaines portions de l'Écriture que nous venons de lire se sont déjà accomplies, nous arrivons à un moment donné à une portion de l'Écriture qui ne s'est pas encore accomplie, c'est-à-dire les temps de la fin. Verset 28, que nous n'avons pas lu, verset 28, il est dit « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Darby et la Bible annotée traduisent « Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. » L'expression est légèrement différente et nous permet de nous orienter, donc, comme c'est écrit d'ailleurs, puisque le royaume qui ne passera à personne d'autre, c'est le royaume éternel, c'est celui de notre Seigneur quand il viendra, n'est-ce pas, et qu'il règnera sur la terre. le temps des nations, à partir du livre de Daniel, il ne commence pas à partir du livre de Daniel, mais là, il nous est donné, à partir du livre de Daniel, la tête d'or, vous l'avez vu, c'est Nebuchadnezzar, c'est l'empire de Babylone. Puis après, la poitrine et les bras d'argent, qui c'est qui a succédé à Babylone? Eh bien, c'est les Médo-Perses, les Mèdes et les Perses. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est de l'histoire maintenant. Vous l'avez peut-être étudié à l'école, vous êtes en train de l'étudier. Le ventre et les cuisses des reins, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui est venu après et qui a vaincu les Mèdes et les Perses. Les jambes de fer et les pieds, en partie de fer et en partie d'argile, c'est l'empire de Rome. C'est les Romains qui sont venus après. Et au verset 42... nous arrivons à la fin de l'empire de Rome lorsqu'il est dit « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume qui va donc arriver, n'est-ce pas, qui sera le royaume de l'empire de Rome, si vous voulez, mais nous allons voir peut-être quelques détails supplémentaires, à la fin des temps, il sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne sont point unis l'un à l'autre. Comme vous le savez, le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. Dans le temps de ces rois, et je vous ai demandé de vous souvenir de cette phrase, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux va intervenir. Et là, il nous est dit, il suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là. Donc notre Dieu a prévu de créer ce monde, cet univers, dirais-je même, mais il a prévu aussi comment ça va se finir. Il a donné un temps, n'est-ce pas, à l'être humain, et son temps, on l'a lu tout à l'heure, c'est la largeur de la paume de la main, surtout que ma main, elle est petite, alors vous imaginez un peu, il y en a qui ont une pogne, mon ami, quand je leur serre la main. Bon, il est écrit au verset 42, « Les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. » Alors ça m'intéresse, les doigts des pieds. Il y a combien de doigts dans les pieds? Vous en avez combien, vous? Bon, il y en a, c'est vrai, qui sortent de la norme, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça une déformation congénitale. Et il est dit que dans le temps de ces rois, et je rappelle qu'il s'agit des doigts de pied, donc quand le royaume éternel arrivera, il y aura 10 rois, les 10 doigts des pieds, il y aura 10 rois dans le territoire de l'ancien empire romain, puisque nous sommes toujours dans l'empire romain quand nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin, vous avez les doigts des pieds. Souvenez-vous que la bête avait combien de cornes? 6? Non, pas 6. 10. Ah, 10. Ben, c'est parce que j'entends mal. Hein. Et oui, la bête avait 10 cornes avec 10 diadèmes. Mais elle était semblable à quoi? À un léopard. Vous allez comprendre. Ses pieds étaient ceux d'un ours et sa gueule un lion. Ah, c'est le Seigneur qui nous présente ainsi, d'une façon imagée, ces choses. Ça permet à notre imagination de cerner un petit peu ces choses qui nous échapperaient, parce que nous sommes lancés dans le futur. J'allais presque dire c'est du voyage dans le futur, là, hein? Retour dans le futur. Vous permettez qu'on aille dans Daniel chapitre 7, enfin, même si vous ne me le permettez pas, je vais le faire quand même. Hein. Daniel, pardonnez-moi de vous parler un peu librement comme ça, hein, on est entre nous. Hein. Daniel chapitre 7, verset 1er, on peut même lire à partir du verset 2, là il ne s'agit plus d'un roi païen qui a eu un songe avec une statue extraordinaire, avec différents métaux, c'est Daniel lui-même qui va recevoir ses révélations. Et au chapitre 7, verset 2, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. » Voilà, il avait des ailes d'aigle, etc., etc. verset 5, et voici un second animal était semblable à... Alors, vous avez le lion et vous avez l'ours. Il se tenait sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule. On lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à... Eh oui, vous voyez, on a les trois bêtes là, les trois bêtes, le léopard. Et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes. Ça vous embrouille tout ça, hein? Moi, j'étudie ça, j'allais dire tous les jours. Moi, je laisse un peu de côté quand même de temps en temps, mais je suis plongé dans ces études tout le temps, si on peut dire, hein? Il m'a fallu des années pour écrire l'Apocalypse. Vous pensez bien que ce n'est pas en un jour ou deux qu'on peut écrire cela. Il avait quatre ailes. La plupart des commentateurs pensent que ça parle ici de la vitesse des conquêtes. Hein. Et ensuite, il nous est dit que cet animal avait quatre têtes. Tout cela, bien sûr, ça a une signification. Et il nous est dit que la domination lui fut donnée. Et alors, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Et là, le premier, c'est un lion, le deuxième, c'est un ours, le troisième, c'est un léopard. Mais le quatrième, qu'est-ce que c'est le quatrième? Un rhinocéros? Non, c'est pas un rhinocéros. Un éléphant? Non plus. Non, il ne nous a pas dit qu'est-ce que c'était comme animal, mais il nous a dit qu'il était terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Je n'ai jamais vu un animal avec des dents de fer. Mais il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait... Ah ben tiens, lui il avait 10 cornes. Vous voyez qu'on retrouve quand même l'Apocalypse. Bien sûr, ça ne nous donne pas toute l'explication, mais il nous a dit, je considérais les cornes, c'est-à-dire les 10, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux, ce qui nous explique que la corne, elle nous parle d'un personnage, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec... Vous reconnaîtrez toujours l'Antichrist dans les prophéties par le fait qu'il blasphème, qu'il parle avec arrogance, qu'il fait la guerre aux saints, etc., etc. Mais, bien aimé, bien sûr, tout cela, ça a l'air un petit peu compliqué. Et si vous allez au verset 16, parce que Daniel aussi avait besoin d'une explication, et si Dieu nous donne une explication, je vous demanderai d'accepter celle qu'il vous donne. Parce que certains y vont de leur imagination et disent « Oui, mais je pense que, tu penses que, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. Hein. » Verset 16, enfin, vous pouvez lire le verset 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. » Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls. Hein. « Les visions de ma tête m'effrayèrent. » Imaginez, lui, il a carrément vu ces choses, hein, c'était vivant. C'est comme un film. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Il vivait carrément hein, au milieu de ces personnages. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ah, moi, quand je vois qu'il donne l'explication, je m'arrête. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Vous voyez qu'on arrive toujours à la fin. Et ils posséderont le royaume éternellement et d'éternité en éternité. Amen. Ensuite, il a voulu savoir, bien sûr, la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, il y avait des dents de fer, des ongles de rein, tiens, ça s'est ajouté, des ongles de rein, qui mangeaient, brisaient, foulaient aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints, l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saint du Très-Haut, et le temps arriva où le saint furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera, les 10 cornes. Écoutez bien, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, c'est-à-dire cet animal extrêmement terrible dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas ce que c'est comme animal, hein. Eh bien, il nous est dit que de cet empire, de ce royaume, vont s'élever 10 rois. D'accord ? Si on sait qui est représenté par cet animal extrêmement terrible, alors on comprendra pourquoi c'est important pour nous ce soir, même en 2014, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et écoutez bien, un autre s'élèvera après eux, c'est-à-dire après les 10. Vous avez ici, n'est-ce pas, l'histoire du monde, l'histoire de notre monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si nous on le verra ou si on verra des bribes, vous savez, il y a des choses des fois qui se mettent en place, comme Israël qui est revenu dans son pays, on l'a vu. Mais il y a quelques années, les gens ne l'ont pas vu. Ils pensaient même qu'Israël était banni pour toujours. Bon, nous avons Israël sous les yeux aujourd'hui. Les prophéties s'accomplissent. Et il nous est dit donc, un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Toujours la même chose qu'Apocalypse 13, vous remarquerez. Hein. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, la moitié des temps. Dans l'Apocalypse, il nous a dit que c'est 3 ans et demi. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous sommes ici dans le royaume éternel. Donc on voit bien que le Seigneur a voulu, tout en démarrant, si on peut dire, à partir de l'histoire de Daniel, de ce qui s'est passé à l'époque de Daniel avec le roi de Babylone, nous introduire jusqu'à ce qui va se passer dans les temps de la fin. C'est là, sous vos yeux, c'est écrit. Vous allez dire, oui, mais si ça ne s'accomplit pas, c'est là que nous croyons au miracle. Nous croyons à la toute-puissance de Dieu. Ce qu'il a dit s'accomplira. Et ça s'accomplira tel qu'il l'a dit. Gloire à Dieu. Donc, Daniel reçoit la révélation de l'histoire du monde tel qu'il existera au moment de la fin. Alors, bon, on essaye de rentrer un peu dans les détails. La première bête, c'est Babylone. Évidemment, l'aigle. Et les détails qui nous sont donnés, c'est Nebuchadnezzar, lorsqu'il est redevenu un homme, si on peut dire, après être devenu comme une bête, etc. Bon, après, nous avons l'histoire de l'ours, et nous savons qu'il s'agit de... C'est une répétition de la statue. C'est les Mèdes et les Perses qui ont régné ensemble. Et puis après, en troisième, vous avez le léopard. Et le léopard, c'est... Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Eh oui, ça c'est historique, ça. Hein. Vous étudiez l'histoire et vous verrez que les choses se sont produites telles que Daniel l'avait à l'époque, c'est de la prophétie. Certains ont dit, mais non, ça c'est un pseudo-Daniel qui a écrit ça, n'est-ce pas, mais du temps de Antiochus Épiphane pour exhorter les Maccabéens, n'est-ce pas, qui luttaient contre, évidemment, contre les ennemis. Non, mes frères et sœurs, ça n'a pas été écrit à cette époque-là, parce que il sous-entendait, ça a été écrit, mais une fois que c'était devenu de l'histoire. Vous voyez, il revenait en arrière et il racontait les choses comme sous forme de prophétie, mais c'est absolument faux. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, la découverte des rouleaux de la mer morte, il y a des portions du livre de Daniel où il nous est bien montré que, mes frères et sœurs, ces choses ont été écrites à l'avance, avant. N'est-ce pas, c'est ce que racontent les fameux théologiens, et qui ne sont pas mes copains en passant. Hein. Bon, vous ne comprenez pas encore bien les choses, mais allons au chapitre 8, s'il vous plaît. Ben, bon, il faut que je dise, s'il vous plaît quand même, parce que vous allez me tomber dessus en disant, vous n'avez pas dit s'il vous plaît. La suite de l'histoire des nations, qui est toujours symbolisée par des animaux, du moins c'est le Seigneur qui a voulu symboliser cela par des animaux, chapitre 8, verset 1er. Vous avez déjà lu ça, certainement, bien sûr, même si on a survolé la lecture en disant, oh là là, il faudrait qu'on m'explique ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, je vous donne quelques explications ce soir. Évidemment, ce que je vous donne là, c'est le consensus un petit peu général de tout, de frères qui ont étudié, bien sûr, sérieusement la parole de Dieu. Je ne vous raconte pas ce que certains rigolos, entre guillemets, racontent. Nous restons sur des gens sérieux. La troisième année du règne du roi Belshazzar. On est toujours, vous voyez, à l'époque du règne de Babylone, hein, parce que Belshazzar, c'était du temps de Babylone. Ceci pour vous dire que tout ce qui va être écrit, c'est de la prophétie. Moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Elles reviennent toujours, les cornes. Hein. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Donc ça veut dire qu'il y en avait deux. Hein. Elle s'éleva la dernière. Celle qui était plus haute s'est élevée en dernier. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc. Ben, tout à l'heure, c'était un bélier. Hein. Un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier, qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier, s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Voyez une précision supplémentaire. Tout à l'heure, nous étions dans 10 cornes. Maintenant, nous sommes dans 4 cornes. Et au verset 9, il est dit, « De l'une d'elles, de l'une de ces quatre, sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. » C'est quoi le plus beau des pays? Dans la Bible, c'est Israël, vous pouvez être sûr. C'est Toulouse, le plus beau des pays, la ville rose. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Je vais pas vous, je vous fais grâce hein, de toute cette lecture. Mais au verset 17, verset 16 peut-être, j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, le fleuve. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Voilà, donc il y a une explication. Qu'on ne va peut-être pas bien saisir d'emblée, mais il essaie de lui expliquer. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je vus effrayé. Imaginez, au milieu de tous ces êtres angéliques, hein, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc Dieu est en train de nous parler sous forme d'image, n'est-ce pas, des temps de la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des... Et le frère Ségura l'a inventé. Eh bien non, c'est écrit. C'est les Mèdes et les Perses. N'oubliez pas qu'il n'était pas là encore. C'était toujours Babylone qui dominait. Mais d'après Daniel, Dieu lui dit, n'est-ce pas, dans cette prophétie, que ce sont les rois des Mèdes et des Perses. C'est pour ça qu'il y avait deux cornes, et une plus haute que l'autre, tout simplement parce qu'un des deux, un des deux était plus fort, si on peut dire, plus riche que l'autre. Le bouc, alors le bouc c'est qui? C'est le roi de Java, le roi des Javanais. Et c'est quoi Java? c'est la Grèce. La Grèce, la Macédoine, la Grèce à l'époque. Hein. Et c'est Alexandre le Grand, mes frères et sœurs. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, c'est lui, c'est Alexandre le Grand. Une seule corne, unique, puissante. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, donc la mort d'Alexandre le Grand, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation. C'est-à-dire la nation de Alexandre le Grand. Vous n'êtes pas perdus là? Vous voyez? Finalement c'est clair. Comprendre l'Apocalypse. Mais oui. Mais il nous est dit qu'ils n'auront pas autant de force, évidemment, à côté d'Alexandre le Grand. Hein. On le prend même encore aujourd'hui pour modèle, pour ses stratégies. À la fin de leur domination, donc du temps va passer, lorsque les pécheurs seront consumés, sous-entendu, arriveront vraiment au terme, il s'élèvera un roi, vous voyez, donc après les quatre, il s'élèvera à la fin un roi, comment ? Impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, sous-entendu le prince des princes. Hein. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Mes frères, mes sœurs, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Dieu nous ramène toujours à la fin et il est en train de nous proposer des empires, des nations. C'est ça que je voudrais mettre ce soir devant vous et que nous sommes en train de vivre en ce moment même, voyez-vous. Que nous dit cette vision, n'est-ce pas, à la fin de leur domination? La version seconde traduit ainsi, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. J'ai lu la version parole de vie. Bon, ça nous intéresse des fois de la lire. Quand ces royaumes n'existeront plus, quand les gens mauvais auront répandu toute leur méchanceté, un roi se lèvera. Il sera plein d'orgueil, très habile pour tromper les autres. Et puis, la version français courant traduit « Quand ces royaumes toucheront à leur fin », et que les pécheurs auront mis le comble à leur péché, un roi arrogant et expert en tromperie surgira. Je vous le dis tout de suite, il s'agit de l'Antichrist, celui qu'on a pris l'habitude d'appeler l'Antichrist, parce que c'est lui qui va surgir à la fin. Mais ce qui est étonnant, c'est que les royaumes nous sont donnés, les pays nous sont montrés, et il nous est dit même d'où il va sortir. Vous ne l'aviez pas lu ? Petit rappel de la vision du bélier, c'est les Mèdes et les Perses. Et le bouc, c'est les Grecs. D'accord ? Donc nous sommes dans quelle région du monde ? Les Mèdes et les Perses, c'est pas la France, hein ? L'Amérique, le Japon, la Chine, voyez-vous ? Donc, après les Mèdes et les Perses et les Grecs, vous avez quatre royaumes qui vont se former, ou qui se sont formés, parce que maintenant c'est devenu de l'histoire. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est que quand Alexandre le Grand est mort, comme d'habitude, on s'est battu, et je te tue, et tu me tues, et je t'empoisonne, etc. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé à la mort d'Alexandre le Grand. On a voulu s'emparer de son empire. Et quelques années se sont produites quand même avant que finalement quatre de ses généraux se partagent son empire. Quatre généraux, et c'est pour ça qu'il est dit quatre cornes se sont élevées pour remplacer cette... N'oubliez pas, quand Daniel a écrit ça, ça n'existait pas. Et ça s'est accompli exactement tel que c'est écrit. Ce sont quatre royaumes, nous est-il dit, qui s'élèveront de cette nation, c'est-à-dire Alexandre le Grand, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, alors il nous est dit, il s'élèvera un roi impudent, je retiens l'expression biblique, et artificieux. C'est donc d'un de ces quatre royaumes C'est la géographie d'Alexandre le Grand, hein, n'oubliez pas, quatre royaumes, hein, que s'élèvera ce fameux roi que nous appelons l'Antichrist et que l'Apocalypse nomme la bête à 10 cornes. Alors, il y en a un des généraux qui s'appelait Cassandre. Il a pris la Grèce, la Macédoine, les parties occidentales de l'Empire. Le deuxième, c'est Lysimaque, qui a reçu la partie nord de l'Empire, c'est-à-dire la Thrace, l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. Vous avez un peu la géographie en tête. Après, vous avez Séleucos, qui a donné naissance à la dynastie des Séleucides, Séleucos, qui a pris toute la partie orientale de l'Empire, c'est-à-dire la Syrie et Babylone, et qui est allé, vous savez qu'Alexandre le Grand est allé jusqu'à la frontière de l'Inde. Il a poussé à l'est, et après, certains racontent qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il n'avait plus de territoire à conquérir. C'est vous dire un petit peu la fougue qu'il avait. Il avait vraiment 4 ailes, lui. Hein. Enfin, moi aussi, j'ai eu une 4 ailes quand j'étais stagiaire, mais ce n'était pas la même. Hein. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Actuellement, si vous préférez, pour vous donner une idée, hein, de cet empire, il est important parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler de l'État islamique. Excusez-moi de rentrer un peu dans certaines choses que vous entendez tous les jours. Hein, où est-ce que ça se passe actuellement? Eh bien là, c'est la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Iran. Ça va? Vous voyez dans quelle situation nous sommes? Et Ptolémée, un quatrième général, a pris le royaume d'Égypte, lui, c'est-à-dire la partie sud de l'Empire. Ces 4 divisions, excepté la partie extrême orientale de Séleucos, ont fait partie de l'Empire romain. Vous voyez, parce qu'après, il y a eu l'Empire romain, n'oubliez pas, l'Empire romain. Donc, les 10 pays... qui vont former dans l'ancien territoire, dans l'ancien territoire de Rome, parce que ce n'est pas vraiment l'Empire romain tel qu'il existait autrefois. N'oubliez pas, c'est 10 pays à l'intérieur de l'ancien Empire romain, n'est-ce pas? Ces 10 pays doivent inclure ces 4 pays. Alors vous remarquerez qu'aujourd'hui, dans l'ancien territoire de Rome, de l'Empire romain, on n'a pas ces pays, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, la Turquie et la Grèce. Enfin, la Grèce, oui, vous allez me dire. Mais je parle ici de l'Empire tel qu'il était à l'époque d'Alexandre le Grand. L'Europe d'aujourd'hui ne correspond pas à ce schéma. Ces pays du Moyen-Orient dont nous parlons sont pour le moment exclus. Vous avez entendu parler du temps de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il y avait l'UMP, mais il y avait aussi l'UPM. Non? Ça vous dit rien, parce qu'on n'en a pas tellement parlé. C'est l'Union pour la Méditerranée. L'UPM. Il avait reçu Kadhafi, il avait reçu, enfin, tous ces gars de l'époque, certains n'existent plus aujourd'hui. Vous savez, n'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, les prophéties vont s'accomplir. Ça veut dire que dans ces pays que nous connaissons aujourd'hui, une partie de l'Europe, je ne sais pas s'il y aura toute l'Europe ou une partie, n'est-ce pas? En tout cas, il y aura ces pays du Moyen-Orient. Il va y avoir une fédération, si je puis dire, de 10 pays qui vont donc se créer. Nous retrouvons ici, mes frères et sœurs, ce que la Bible nous dit il y a longtemps, parce que ces prophéties ont été écrites environ 2000 quelques années, 2600. Hein. Vous vous rendez compte si ça fait longtemps? Voyez-vous? Les 10 pays vont se former à l'intérieur de l'ancien territoire de Rome. Puisque nous avons vu les 10 pieds, n'est-ce pas? C'est une suite du pays, n'est-ce pas, de l'Empire romain. Les 10 orteils. Et du milieu des 10 cornes qui représentent la même chose que les 10 orteils, vous avez une petite corne qui va sortir. Donc, d'un de ces 10 pays qui vont se former à la fin des temps, vous en avez un qui va s'élever après. Il est dit après. pas avant. Ce n'est pas lui qui va former les 10 pays. Il nous a dit qu'il s'élèvera après. Alors, mes frères, mes sœurs, ces 4 pays qui nous sont donnés dans la Bible, il nous est dit que c'est d'un de ces 10 pays, de ces 4 pays que va sortir l'Antichrist. J'ai eu l'occasion, si vous lisez, mais j'ai 2 livres qui sont sortis. Le premier, certains d'entre vous l'avez déjà acheté, il s'appelle « Objectif Israël ». C'est un tout petit livre de 200 pages. Apocalypse, c'est 440 pages quand même. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher. Et j'ai eu l'occasion donc de regarder un peu les prophéties de l'islam. Vous me permettez que j'en parle un petit peu ? Parce qu'ils ont des prophéties aussi. Et ils ont par exemple une prophétie. Vous allez voir qu'on est en plein dans l'histoire. Ils ont des prophéties, par exemple, qui disent « Quand vous verrez les drapeaux noirs ». Vous avez vu les drapeaux noirs ? Ils se baladent toujours avec les drapeaux noirs. « Quand vous verrez les drapeaux noirs venant du Khurasan », et le Khurasan, c'est l'Iran, c'est-à-dire le pays de l'Est, pour eux, bien sûr, pour l'Arabie, pour ces pays du Moyen-Orient, il est dit « Alors, rejoignez-les, même s'il faut y aller en rampant dans la glace ou dans la neige ». Ça, c'est ce qui est écrit dans leur prophétie, parce que El Mahdi est au milieu d'eux. Et qui est El Mahdi ? Eh bien, c'est leur Messie. Voyez-vous. Je dis leur Messie. Ils attendent, ils le prêchent. Vous avez les paraboles, eux aussi, ils ont des paraboles, et ils reçoivent ces messages régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et vous avez ainsi des jeunes, parmi nos jeunes, qui ont la tête bourrée de ces idées, et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour s'en aller et faire le djihad, aller faire la guerre là-bas, parce que les prophéties le disent. Et il va y avoir une confrontation. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais une chose, c'est que dans ces derniers temps, allons-nous le voir, vous savez, il y a eu un temps où on n'osait pas parler de la Première Guerre mondiale, puis elle est arrivée, et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, certains parlent d'une Troisième Guerre mondiale, voyez-vous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux vous dire une chose, c'est que dans ce territoire de l'ancien Empire romain, est-ce que ça va prendre tout le territoire? Parce que vous avez remarqué que quand, après les Mèdes et les Perses sont venus, Alexandre le Grand, etc., ça n'a pas vraiment revêtu point par point tout le territoire, ça a été plus ou moins élastique, si je puis dire, hein. Est-ce qu'il va se passer la même chose dans la fin des temps, c'est-à-dire dans cette région quand même de l'ancien Empire romain et puis donc d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire l'Empire romain, l'Empire d'Alexandre le Grand, pardon, il va se passer un bouleversement pour que finalement il y ait 10 pays qui vont s'agglomérer et du milieu d'eux va surgir celui que nous appelons la bête. Enfin, l'Apocalypse 13 l'appelle la bête. Le dragon lui donna sa puissance, nous est-il dit dans Apocalypse 13, verset 2, son trône et une grande autorité. Et le dragon, c'est le diable. C'est un personnage, je parle de la bête, là, à 10 cornes, c'est un personnage qui va être habité. Et quand je dis habité, vous avez compris ce que ça veut dire. Il va être possédé. Le dragon va lui donner sa puissance, mais c'est une puissance méchante, mauvaise, destructrice. Il va subjuguer les foules. Il va tenir, n'est-ce pas, le monde, hein, avec, j'allais le comparer à Hitler, mais à côté d'Hitler, ce sera, j'allais presque dire, ce sera rien du tout, parce que lui, il va aller beaucoup plus loin, mes frères et sœurs. Mais une chose sera certaine, c'est que l'objectif sera toujours le même, c'est la destruction du peuple d'Israël. Il faut absolument se débarrasser du peuple d'Israël. Il nous est dit que sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. C'est-à-dire que le diable va l'investir de tout le pouvoir dont il pourra investir un homme. Et il nous est dit aussi, il fera d'incroyables ravages. Je reprends les textes. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main, puisque la Bible nous dit que c'est le Seigneur Jésus, par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira cet impie. La version Osterwald traduit « Il s'élèvera contre le prince des princes ». Donc les mots qui sont là dans le texte original peuvent être traduits ainsi. À ce moment-là, je voudrais quand même terminer avec cette note, c'est que l'Église aura été enlevée. Parce que ça, c'est, pour moi, c'est clair dans l'Écriture, et je le démontre bien dans mes écrits, l'Église sera enlevée avant la tribulation. Et vous allez comprendre pourquoi, n'est-ce pas, en lisant les prophéties, parce que tout simplement, il va se passer des choses, et Dieu ne permettra pas que l'Église connaisse ces choses-là. Il va y avoir un grand bouleversement, donc, en Europe, puisqu'il va y avoir ces 10 pays, y compris des pays du Moyen-Orient. Est-ce à cause du pétrole, à cause de tout ce... Vous savez, si vous n'avez pas de pétrole, vous ne roulez pas. On ne serait pas venu ce soir si on n'avait pas eu de pétrole. Hein. Si, avec un bourricot, peut-être. Alors, quels sont les événements que nous verrons et quels sont les événements que nous ne verrons pas? Moi, je vous laisse avec un point d'interrogation parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Quand j'ai écrit tout ce que j'ai écrit, je ne m'attendais pas à voir l'État islamique, par exemple, se créer soudainement comme ça. Là, ça me frappe parce que vous avez remarqué que c'est à cheval entre la Syrie et l'Irak. Je ne sais pas s'ils vont prendre de l'ampleur ou si on va réussir à les étouffer. Il vaut mieux parce que vous savez que vous avez des frères et sœurs qui sont là-bas en train de se sauver dans les montagnes. Ils vivent dans l'angoisse avec leur bébé dans les bras. Ils cherchent de la nourriture, ils ne veulent pas être égorgés car ce qu'ils font, vous le savez, c'est comme c'est écrit dans l'Apocalypse, c'est être égorgé. Je ne suis pas en train de vous dire des choses très, très folichonnes d'un côté, mais de l'autre... Je voudrais vous dire, il me semble quand même que le Seigneur Jésus n'est pas loin, et je parle pour enlever son Église. Alors demain matin, je vais vous parler sur l'enlèvement de l'Église, plus particulièrement sur l'imminence de l'enlèvement, et demain après-midi, je reviendrai sur l'enlèvement, mais en donnant plus de détails sur ce qui est écrit concernant l'enlèvement.